comme les prévoyants maîtres de chantier, protégez vos ouvrages avec Suno Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Jaloux, manipulateur, persifleur, médisant ou autre pervers narcissique, on a tous rencontré dans notre entourage ou notre milieu professionnel des personnes toxiques qui prennent un malin plaisir à juger, déstabiliser, dévaloriser, vexer ou encore humilier l'autre. Comment reconnaître ces personnes toxiques? Quelle stratégie pour s'en protéger? Faut-il carrément les éviter? Comment ne pas en devenir une soi-même? Est-il possible de soigner ces troubles du comportement? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Dana Castro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute à Paris, auteur du livre « Ces expériences de vie qui nous font grandir » paru aux éditions Vigo. Sabrina Philippe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, chroniqueuse radio et vous publiez chez Flammarion un roman « Et que nos âmes reviennent ». La narratrice, psychologue comme vous, raconte comment elle est tombée amoureuse d'un homme charmant qui va se révéler être un pervers narcissique et elle raconte le piège qui se referme sur elle. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec Pierre Loubichy, psychologue clinicien et thérapeute à Kinshasa, en RDC. Et en fin d'émission, nous retrouverons les questions des auditeurs au docteur Catherine Solano, sexologue. Si vous voulez témoigner ou poser des questions à nos invités, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Dana Castro, comment reconnaître une personne toxique? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui ne trompent pas?
Le plus souvent, on reconnaît la personne toxique par l'effet que ça nous fait en nous au bout d'un certain temps. Car, comme vous le dites si bien Sabrina, les premières phases de la rencontre avec ces personnages sont vraiment idylliques, tout paraît extraordinaire. Parfois, on se dit, c'est un peu trop beau pour que ça soit vrai. Et pourtant, on croit parce qu'on a envie d'y croire. Et petit à petit, s'immiscent comme ça quelques doutes, pas de doutes, quelques, on va dire, inquiétudes, un sentiment d'oppression, une incompréhension, et petit à petit, l'étau se resserre. Donc, quand je pense que le signe le plus éloquent, c'est le doute. Quand on commence à douter de soi, quand on commence à se poser des questions, mais peut-être que peut-être qu'il a raison, peut-être que je n'ai pas assez fait la cuisine, ou peut-être que j'ai pas rempli correctement le frigo. Au moment où on commence à se poser des doutes sur des questions qui ne nous venaient jamais à l'esprit, je pense que c'est un signe très important qu'il faut prendre en considération. Je dirais qu'une autre chose est que lorsqu'on a au fond de soi un peu ces inquiétudes ou des choses qui nous dérangent, ça serait bien qu'on puisse les faire venir à la conscience et se dire que ça doit certainement vouloir nous dire quelque chose. En général, on les balaye d'un revers de main pour plein de raisons, mais il est important de faire venir à la conscience et se dire qu'est-ce que ça veut me dire, même si je résous la question maintenant. Je me donne du temps pour y penser. Donc, c'est vraiment par rapport aux conséquences. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui va se passer à la fin? La rencontre va transformer la personne. La personne ne se reconnaît plus.
Sabrina Philippe, est-ce qu'il faut apprendre à reconnaître une personne toxique ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt apprendre à démasquer une personne toxique parce qu'elle cache effectivement souvent bien son jeu, comme Dana Castro le disait à l'instant?
Toute la difficulté est là, puisque, comme le disait Dana, au début, c'est ce que j'appelle, moi, la lune de miel, c'est-à-dire que tout est merveilleux, tout est extraordinaire.
C'est le prince charmant.
C'est le prince charmant,
ou la exactement. Princesse charmante, voilà. Peut-être, je sais pas si on conjugue
au
féminin.
Il y a une phrase, en effet, dans mon roman qui dit « Attention, petite fille, les princes charmants n'existent pas ». C'est vrai que quand c'est trop beau pour être vrai, il faut quand même se poser la question du vrai. Ça, c'est une première chose. Et il y a autre chose aussi qui est dit par Dana un peu différemment, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a toujours des petits avertissements. En fait, il y a des petites choses qui nous dérangent, on a un inconfort. Et bien souvent, on veut pas se faire confiance. C'est-à-dire qu'on se remet déjà en cause, en doute, sur ce que l'on ressent à l'intérieur. L'idée dans la vie en général, pas seulement avec ses personnalités toxiques, c'est d'apprendre à entendre cette petite voix à l'intérieur de nous, puisqu'elle sait. Elle sait, elle, ce que notre mental, souvent, analyse mal et interprète mal.
Le terme de pervers narcissique est très à la mode depuis quelques temps. Est-ce que toutes les personnes toxiques sont des pervers narcissiques, Dana
Castro? Je dirais non, parce que lorsqu'on parle de quelqu'un comme un pervers narcissique, vous savez, les deux mots relèvent de la psychopathologie. Un pervers est une personnalité pathologique. Donc, ça sort du normal. Et le narcissisme, la personnalité narcissique fait aussi partie du groupe des personnalités pathologiques. Donc, en fait, on est en présence d'une personnalité pathologique dite à comorbidité qui réunit deux caractéristiques très déviantes, à la fois dans la façon de se comporter, de penser et de ressentir. En clair, ce sont des personnalités, grosso modo, qui sont extrêmement centrées sur elles-mêmes et qui font passer leurs besoins en premier, les autres ne sont que des instruments de pour satisfaire leurs besoins, et qui, donc ça c'est le côté un peu narcissique, ils peuvent être extraordinairement charmants.
Oui, on l'a dit, hein, le côté prince charmant.
Et puis le côté pervers, c'est vraiment une extraordinaire stratégie de manipulation. Encore une fois, pour satisfaire les besoins psychologique. Mais enfin, tout le monde n'est pas pervers narcissique. J'insiste quand même beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'une psychopathologie et qu'il y ait des personnalités difficiles. Il y a des gens qui peuvent être extrêmement toxiques par souffrance personnelle. Et donc, il faut vraiment
se méfier.
Oui.
Pas faire d'amalgame. Sabrina Philippe, par rapport au double visage de l'homme dont tombe amoureuse la narratrice dans votre livre, vous écrivez qu'il s'agit d'un animal social hors pair, c'est-à-dire qui peut être charmant et donc tendre, attentif à elle en société, et il se transforme en monstre, entre guillemets, en personnage odieux, en tout cas, dans l'intimité.
Oui, c'est toujours le cas. Et c'est bien la difficulté, justement, entre guillemets, de la victime de la personnalité toxique. Puisque en société, c'est toujours parfait. C'est même au-delà du parfait, avec des attentions, avec des regards. Voilà, vous êtes une princesse, vous aussi. Ou un prince, hein, puisqu'il y a des femmes aussi, hein, j'insiste sur ce point. Et puis, en effet, dès qu'on rentre dans l'intimité, là, tout se transforme. Et c'est un double visage. Ce qui est très difficile donc pour la personne qui en est victime, d'aller raconter à ses amis, son entourage, sa famille.
Parce qu'elle pense que personne ne la croira.
Exactement. Et elle-même met en doute finalement ce qu'elle peut ressentir, puisque 10 minutes avant, cette personne était charmante et disait que c'était l'homme ou la femme de sa vie. Donc elle était glorifiée pratiquement. Et 10 minutes après, elle n'est plus rien. Et donc, comment arriver à communiquer ça à ses amis, à sa famille? La manipulation, elle est là. Elle se trouve là aussi. Puisque vous finissez par douter vous-même de ce que vous remarquez, de ce que vous ressentez. Comme je l'écris dans ce livre, c'est la boussole qui se dérègle. Vous avez une boussole interne qui sait à peu près où est le chaud, le froid, le entre guillemets le bien, le mal, ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et cette boussole-là commence à tourner dans tous les sens. Et vous ne savez plus vous-même finalement, si même vos remarques intérieures sont justes.
Donc on perd pied complètement.
C'est ça, exactement. Et c'est ainsi que vous n'arrivez plus à penser correctement.
Je vous propose, si vous le voulez bien, d'écouter un témoignage. Pendant les 2 ans qu'a duré sa relation avec le père de son fils, Doina a enduré au quotidien des phrases assassines, des tentatives de déstabilisation, de culpabilisation, on va y revenir, des violences verbales et même physiques. Alors désormais séparée de son conjoint, la jeune femme se reconstruit. Elle a raconté à Ndeye Alatiba le calvaire qu'elle a vécu.
J'ai rencontré le père de mon fils dans un moment compliqué de ma vie. Je venais de divorcer, il y avait mon père qui est décédé. J'étais fragilisée. Cette rencontre, elle était merveilleuse parce qu'on partageait plein de choses, on parlait beaucoup, on a beaucoup voyagé. Puis c'est quelqu'un qui est très sensible à tes rêves. Il te fait rêver. C'est pour ça que c'est compliqué. Un jour, tu vis un conte de fées, un autre jour, tu vis l'enfer. Et ce chaud et froid, c'est très déstabilisant pour un être humain. Tu sens que c'est une personne qui n'est pas bonne pour toi, qu'on te vide ton énergie. Moi, je voulais le réparer. Je croyais que j'étais capable de le sauver. La relation, elle a commencé à se dégrader petit à petit. Quand je ne souvenais pas à son besoin d'importance. Le père de mon fils me disait, tu ne sers à rien, il faut que tu te jettes par la fenêtre. Tu t'as regardé, tu es une ombre. Et puis, deux minutes après, il vient te proposer un thé à safran pour tes nerfs. Alors que c'était pas moi le problème, c'était pas moi qui étais folle. C'est le fait qu'on mangeait mon intégrité mentale, on me faisait croire que j'ai un problème. J'avais aucun problème. Ça commence avec par des petites piques. On te commence à te rabaisser, on te fait des réflexions sur comment tu es habillée. Et tu n'arrives pas à donner une réponse, à te défendre, parce qu'on décime tes défenses petit à petit. Ça ne se fait pas dans un jour, un seul jour.
Quel genre de relation il avait avec sa mère ?
Perverse. Je pense, c'est mon avis, hein, ils ont une relation fusionnelle. Ils vivent en couple et la mère dénigre beaucoup le père. Le père est quasi inexistant et il ne prend pas son rôle de père. Et je pense que dans le cas de mon ex, il s'agissait d'une relation incestuelle, mais du point de vue psychologique. Je te donne un exemple. J'étais en train d'accoucher. Dans la salle de naissance, le médecin lui disait d'arrêter de parler tout simplement au téléphone. Il était en train de se disputer avec sa mère, car elle insistait à être présente, elle exigeait d'être présente, et elle disait que sa présence est légitime. Donc, tu es réduit à un objet. Et à ce moment-là, quand tu es en souffrance, tu n'as pas le temps de réfléchir.
Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit stop ?
On était en thérapie de couple. J'étais habitée par le désespoir. Je voulais absolument reconstruire, rebâtir mon couple. Je croyais que c'est possible. Quand j'ai vu que mon ex commençait à... il a sorti son aversion, sa détestation vis-à-vis de sa mère en confondant les rôles, en me disant à moi que je suis quelqu'un de castratrice et que tout est de ma faute. Je pense que je me suis dit, c'est jusqu'ici. Dans ma tête, je me suis levée tôt le matin et tout était clair. C'est à ce moment-là que ma descente en enfer a commencé.
Quelle a été sa réaction ?
C'était de la rage. C'était des coups gratuits. Par exemple, je me levais tôt le matin et il me disait à peine bonjour et tout de suite, c'était des insultes. Barbare slave, petite salope, pute de l'Est. Voilà, c'était le bonjour matinal. C'était un père absent. Mon fils ne l'intéressait pas. Il ne l'intéressait qu'en public. Pour donner une bonne image aux autres, c'est tout. Un père absent, un père qui est défaillant.
Y avait-il des moments où il arrivait à prendre du recul sur son comportement, sur ses actes ?
Oui, il y avait des moments de lucidité après les tempêtes. Je ne pense pas que ça se soigne. C'est une construction défaillante. Vous ne pouvez pas optimiser sa maison mentale. Ce n'est pas possible. Moi, je prends soin de son image à lui parce que mon fils va devenir un homme. Et même si c'est un père défaillant, il existe. Donc, il faut lui montrer de respect. Mais lui, non. J'ai un mélange de sentiments, une obligation de me défendre parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et toujours vivre cet état d'alerte, ce n'est pas du tout confortable mentalement. Toujours se dire, ah, c'est un prochain piège, il faut que... Vous êtes beaucoup dans l'anticipation, vous êtes beaucoup dans la stratégie, il faut avoir du recul. J'ai appris plein de choses grâce à lui et je lui suis reconnaissante et j'ai de la gratitude. Mais ça me fait de la peine pour cet être. Au fond de lui, il doit être profondément triste.
Qu'est-ce que vous faites pour vous reconstruire ?
J'ai beaucoup lu sur les pervers narcissiques. J'ai fait une thérapie de 3 ans et demi. Des différents ateliers, comment se défendre, comment communiquer avec eux. Et je fais également de l'hypnose, ça m'aide beaucoup. Et j'observe beaucoup les gens. Je les aime beaucoup, mais je les observe. Et il faut faire des choix justes, c'est tout.
Sabrina Philippe, quand Doina parle de conte de fées un jour, d'enfer le lendemain, ça résonne en vous, j'imagine.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. Déjà, c'est un très beau témoignage d'une grande maturité. Je trouve qu'il y a eu un long chemin fait, puisqu'elle arrive à éprouver de la gratitude pour tout ce que cette rencontre lui a appris sur elle. Je crois que c'est important aussi de dire, et ça, c'est toujours le cas, qu'on ne rentre jamais dans ce type de relation par hasard. C'est-à-dire qu'en réalité, à l'intérieur de la personne qui est victime, il y a déjà la touche de la dévalorisation qui s'est, comme sur un piano, vous voyez, qui a déjà été plusieurs fois jouée, soit par les parents, souvent c'est les parents, par l'entourage, plus jeune. Donc, elle connaît déjà cette dévalorisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle se dévalorise consciemment tout le temps, mais elle connaît ce mécanisme. Ce qui fait que lorsqu'elle rencontre cette personne, homme ou femme, eh bien, c'est une musique qu'elle a déjà entendue, qu'elle joue elle-même, c'est-à-dire que souvent, elle est amenée à s'en rendre compte, se dévaloriser, voilà, personnellement. Et donc, forcément, cette musique que joue l'autre, elle la connaît, et elle va, bien sûr, la reconnaître, et ça va lui être familier. Ça, c'est très important parce que c'est un début aussi de reconstruction. Il passe par là, ce début de reconstruction. Des personnes qui n'ont pas été dévalorisées par avant, lorsqu'elles vont rencontrer ce type de personnes toxiques, n'ira pas. Parce qu'il n'y aura pas de prise, en fait. Là, il y a une prise qui est déjà... voilà, qui est déjà faite, et souvent aussi dans un moment de vie difficile, elle le disait, voilà, après un décès, dans un moment de solitude, donc plus affaiblie encore.
Tana Castro, Doina croyait pouvoir sauver son conjoint parce qu'elle l'aimait, mais ça n'a pas marché, la thérapie de couple a échoué. Qu'est-ce qui peut faire changer le comportement d'un pervers narcissique? Est-ce que ce genre de trouble du comportement se soigne?
Très difficilement. Ça se soigne très difficilement parce que il faut comprendre qu'est-ce qui fait qu'on soigne les gens. C'est lorsqu'il y a une prise émotionnelle ou lorsqu'il y a une prise intellectuelle qui permet de réorganiser un peu les choses, etc. Très souvent, ces personnalités sont tellement bétonnées au niveau émotionnel. Regardez, dans ce témoignage extrêmement émouvant, on nous explique que le matin, elle recevait des coups, donc ce monsieur n'imaginait même pas que c'est un être humain. Donc c'est pour vous expliquer que la notion d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre et de voir ce qu'il pourrait ressentir, est très difficile... enfin, n'existe pas. Maintenant, je veux pas généraliser. Il y a des personnes. Pourquoi devient-on pervers narcissique? Il peut y avoir différentes causes. Une cause, on l'a entendu. Enfin, une des raisons, on l'a entendu dans le témoignage. Ça peut être lié à l'enfance, etc.
Oui, parce que Doina évoque la relation fusionnelle.
La relation fusionnelle avec
sa mère. Donc, le problème du pervers narcissique vient de l'enfance. Est-ce qu'il a raté l'étape de l'apprentissage des émotions? On parlait hier dans Priorité Santé de l'importance en tout cas, d'apprendre à gérer ses émotions pour développer une capacité d'empathie. Et visiblement, c'est ce qu'il n'a pas fait.
En tout cas, les émotions sont très perturbantes. Et c'est une façon de restreindre, de pratiquement éradiquer les émotions. Maintenant... comme toujours, il faut chercher la faille. Si ces personnalités ont une faille quelque part, faille dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être comme levier. Si, par exemple, la relation avec la mère, ça peut être un levier, peut-être qu'on peut s'appuyer dessus pour amener une prise de conscience. Le soin peut être aussi très superficiel et au niveau comportemental. Et en général, là, c'est la loi qui tranche.
Oui, on peut aussi.
On vous a à l'œil, et si donc c'est vraiment une, mais ça ne va pas aller en profondeur.
On va prendre un auditeur au standard, Christian, qui nous appelle de Marois au Cameroun. Bonjour, Christian.
Allô, bonjour.
Christian, on vous écoute. Vous avez la parole.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Je venais parler de ma situation parce que je pense être quelqu'un de toxique.
Pourquoi?
Dans l'ensemble, quand j'ai fait le bilan de mes relations professionnelles et personnelles, je me rends compte de ce que mon image n'est pas la meilleure. Et après, le fait que je m'emporte, je critique un certain nombre de choses, d'actions posées par les autres autour de moi, m'indique bien suivant le résumé qu'au fait de l'émission que je suis quelqu'un de toxique.
Mais est-ce que vous souffrez de cette impression d'être une personne toxique?
Ah oui, bien sûr, naturellement. Quand vous faites le bilan de vos activités professionnelles, sociales, personnelles, vous vous rendez bien compte que vous êtes différent. À tout critiquer, à mal parler aux autres, à influencer, je pense pour la plupart du temps négativement, surtout dans le cadre professionnel, les choses ou les activités menées par les autres, oui.
Et est-ce qu'il y a eu, d'après vous, un élément déclencheur ?
De mon point de vue, je n'ai pas encore consulté pour avoir d'autres éléments. Tout a commencé lorsque je suis passé par l'université. Et il y a eu à ce moment, à l'époque, à l'université de Yaoundé 1, le phénomène de disparition des nôtres. J'ai été victime de disparition des nôtres après 10 années passées sous les bancs. Donc ça fait que j'ai dû bagarrer, j'ai dû batailler pour me retrouver une santé physique et sociale.
Parce que vous n'aviez plus vos notes, plus vos résultats scolaires, et donc vous n'avez pas pu avoir de diplôme, c'est ça ?
Non. Après 10 ans, je me suis retrouvé avec un baccalauréat. Pourtant, ayant bien pris part aux examens, ayant eu des notes, des relevés de notes. Et une des phrases phares qui m'a marqué, c'est celle lorsque vous adressez à l'administration, qu'on vous dise « vous n'étiez pas là, vous mentez, des notes abriquées, vous n'avez pas de niveau ».
Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? C'est à ce moment-là que vous êtes devenu très amer, très agressif, très critique ?
Oui, je me suis replié sur moi. Ça n'a pas aidé. C'est déjà pas facile de se faire écouter, de se faire entendre. J'ai souffert de ça, de juste quelqu'un à qui j'aurais pu exprimer ma situation. Déjà me faire écouter. J'ai dû plusieurs fois faire des chemins de croix, si je peux dire, pour seulement qu'on m'écoute, écouter ma situation, qu'on entende mon problème. Vous voyez, la situation intervient alors que vous avez une bourse sous la main. Et les autres vous disent, bon, c'est pas possible, vous n'avez pas de notes, vous n'avez jamais été inscrit. Pourtant, vous avez des reçus, vous avez des fiches d'inscription, vous avez des relevés de notes qu'on vous a donné. Et on vous dit, ça, c'est des faux, allez voir ailleurs. Je me suis replié sur moi-même, j'ai dû retrouver la force de regarder les choses en face, de regarder les autres en face, et pouvoir avancer, et pouvoir chercher avec le temps du pain quotidien. Et ça fait que j'ai très mal pris, je prends mal les critiques, je suis pourtant très prompt à critiquer et invectiver.
Docteur Castro, voilà. Comment vous réagissez à ce que vient de nous expliquer Christian ?
D'abord, Christian, je vous remercie pour ce témoignage qui est très authentique et qui nous laisse penser que vous avez eu beaucoup de souffrance et que peut-être cette souffrance est encore présente. En fait, ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez pas complètement tourné la page de cet événement déclencheur qui a agi pour vous comme un choc parce que finalement, vous avez été invalidé. Personne n'a voulu croire à ce que vous avez vécu. Vous avez été invalidé et dans vos espoirs et dans ce que vous avez réellement fait. Le fait que vous soyez critique et le fait que vous vous sentiez un peu différent peut effectivement être la conséquence de ce choc que vous avez reçu. Ça traduit pour moi beaucoup de souffrance et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment se pencher pour comprendre comment vous pourriez la mettre à votre service d'une certaine façon et regarder l'avenir d'une manière plus confiante. Parce que j'imagine, dans ce que vous nous dites, on comprend aussi que lorsqu'on vous dit que vous êtes un menteur, que vous n'avez pas le niveau, c'est aussi, dont on parlait tout à l'heure, le doute qui s'est inséré dans votre esprit et que c'est très difficile d'avancer avec le doute permanent, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou pas ? Le fait que vous vous posez ces questions témoigne que vous êtes quelqu'un de bien.
Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire.
Et qu'il est important de prendre conscience de toute cette charge émotionnelle que vous avez en vous et de vous dire « je vais en faire quelque chose ».
Sabrina.
Oui, Christian, moi ce que j'avais envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas un manipulateur pervers. Et le seul fait que vous appeliez ce standard pour dire que vous l'êtes, prouve que vous ne l'êtes pas.
Voilà, tout simplement. Vous parlez de votre souffrance. En fait, c'est une colère que vous avez en vous. Et cette colère, elle se projette sur les autres. C'est pour ça que vous êtes critique. Mais la manipulation, c'est pas ça. C'est essayer de se servir de l'autre. Vous ne vous servez pas des autres, en fait. Vous projetez sur eux une colère que vous avez à l'intérieur de vous. Une injustice que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous fait voir le monde par le filtre de l'injustice. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc déjà, rassurez-vous sur ce point, Christian. Alors bien sûr que la colère, elle peut être toxique pour les autres, hein, mais vous n'êtes pas dans la manipulation, et ça c'est important que vous le sachiez.
Christian, est-ce que vous êtes un peu rassuré ?
Oui, mais après je souhaiterais, si possible, arrêter d'éteindre sur les autres, si on peut dire ça ainsi. Je souhaiterais, comme tout le monde, accepter la critique, accepter ce que les autres ont fait, même si je ne suis pas d'accord, de pouvoir le dire doucement, bref. Être normal, si on peut dire ça comme ça.
C'est pour cette raison qu'il faut consulter, Christian,
oui,
et qu'il faut faire sortir cette colère dans un lieu de consultation et travailler cette injustice, voilà, qui teinte votre vie.
Merci beaucoup, Christian, de nous avoir appelé. Je vous souhaite une bonne journée à Maroua, au Cameroun.
Priorité santé sur RFI. I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sign, find the way, but me, yes, I come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. It must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected to find. Yes, I'm all out on display, and what I've spent a life together. In an eight I'll give away. Yes, in an eight I'll give away. So I smile a little too much, and the glance it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glance it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Too Much, Loudoyon, extrait de son dernier album Soliloquie. Priorité santé, comment se protéger des personnes toxiques? Nous sommes toujours en compagnie de Dana Castro, psychologue psychothérapeute, et de Sabrina Philippe, psychologue également et auteur d'un roman inspiré d'une histoire vraie et que nos âmes reviennent, publié chez Flammarion. Quand on est confronté à une personne toxique dans son milieu professionnel, patron, collègue, est-ce qu'il y a des stratégies pour contrer cette personne toxique, ou est-ce qu'il vaut mieux partir en courant, quitte à démissionner ou à demander sa mutation? Dana Castro.
C'est très difficile de partir en courant parce que d'autres questions rentrent en ligne de compte. Mais dans le milieu professionnel, il y a à peu près le même schéma qui va se passer que dans la vie personnelle. Parce qu'au fond, les patrons qui deviennent toxiques ne le sont pas dès le début. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est vraiment épouvantable, odieux dès le début, on sécrète des défenses qui nous aident à se distancier. Or, quand quelqu'un vous fait des compliments, vous invite à déjeuner, vous dire « là là, qu'est-ce que je suis content de votre travail », et qu'ensuite on vous raconte que vous êtes plus bas que terre, les personnes passent par finalement le même processus, commencent à douter d'elles-mêmes. Dans le milieu professionnel, d'ailleurs personnel aussi, il y a un phénomène qui fait qu'on fait de plus en plus, donc on se charge de plus en plus, donc on travaille de plus en plus pour prouver qu'on est quand même quelqu'un de bien. Et en fait, c'est tout le processus de prise de conscience qui est plus ou moins long selon les personnes. Donc, on ne l'identifie pas immédiatement. Alors, comment se protéger? Évidemment, il y a après la possibilité de vivre autre chose dans le milieu familial et personnel. Mais je crois que la première chose à faire, c'est vraiment d'en parler autour de soi.
Sabrina Philippe, vous pensez qu'il vaut mieux partir, fuir? Est-ce qu'on va à l'échec? Est-ce qu'on va dans le mur quand on tente d'affronter la situation?
Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'à partir du moment où vous êtes vraiment face à une personne manipulatrice et qu'elle vous a dans sa ligne de mire, c'est-à-dire que c'est vous qui allez être l'objet justement de ce chaud et froid permanent.
Elle est plus forte que vous.
Elle est plus forte que vous, toujours, toujours. Elle va avoir un ascendant parce que voilà, elle réussit à avoir cet ascendant. Elle l'a hiérarchiquement dans les entreprises et elle ne vous lâchera pas. Ça, c'est vraiment à comprendre, c'est-à-dire que ça ne va pas changer en réalité. Vous allez être sa proie et souvent favorite. Donc, oui, l'idée, c'est pas de partir en courant et en laissant tomber ses droits de salarié, mais c'est envisager un plan de fuite intelligent.
C'est-à-dire
donc une mutation, trouver un autre travail. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ces rapports de manipulation, vous êtes que j'aime bien le comparer comme une mouche prise dans une toile d'araignée. Vous voyez, c'est que vous êtes dedans, vous êtes englué, et elle va vous vider de votre substance jusqu'à la fin. Donc si vous restez trop longtemps, vous risquez vous-même de perdre vraiment votre confiance dans votre capacité de travail et ensuite d'avoir du mal à retrouver un travail ailleurs.
Est-ce qu'on doit alerter la médecine du travail? Est-ce qu'aujourd'hui les professionnels de santé, les médecins, les psychologues, les psychothérapeutes sont suffisamment à l'écoute, formés à rencontrer ce genre de plaintes, de souffrances?
Oui, à ma connaissance, oui, parce que la question de la souffrance au travail est une question qui se traite beaucoup. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'ils comprennent très vite de quoi il s'agit, mais de toute façon, il faut alerter qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas. C'est poser aussi un acte, c'est comme si on posait une plainte à la police, c'est laisser une trace de l'impact que ces personnalités peuvent avoir sur soi. Donc oui, il faut aller à la médecine du travail et surtout dans ce qu'on appelle les consultations santé au travail, les consultations anti-harcèlement, parce que lorsqu'on est la proie de ce type de personnalité, ça devient carrément un harcèlement.
Mais ça relève du harcèlement moral.
De harcèlement moral. Voilà. Tout le temps. Pas de répit.
Sabrina.
Oui. Alors, la grande difficulté, c'est la preuve. La grande difficulté, elle est là. Donc, si vous avez des preuves, il faut les garder. Souvent, il y a des SMS, parce que c'est des personnes qui se permettent de faire des incursions dans votre vie privée, votre téléphone privé, des mails, bien évidemment. Mais c'est aussi le nombre qui va compter. C'est-à-dire que plus il y a de personnes qui vont témoigner comme quoi ce supérieur, bien souvent, fait du harcèlement, plus vous aurez de chances, justement, que votre demande soit prise au sérieux. En général aussi, vous avez des personnes très malignes qui ne laissent jamais de traces. Et ces petites phrases assassines, justement, elles passent dans l'air, elles vous attrapent, mais il n'y a pas de preuves.
On va partir à présent pour la République démocratique du Congo. Pierre Loubichi, bonjour.
Bonjour, madame Chantal.
Vous êtes psychologue clinicien et thérapeute à Kinshasa. Est-ce que le terme de pervers narcissique est connu en RDC?
Oui, le terme pervers narcissique, pour les communs des mortels, c'est-à-dire dans la population, n'est pas connu. Mais dans les jargons national ou ordinaire, c'est connu sous une autre forme. On dirait par exemple des personnes impossibles, des gens mentalement déréglés, etc. Donc voilà un peu ce que c'est passé ici.
Alors, est-ce que beaucoup de vos patients viennent vous consulter parce qu'ils sont victimes d'une personne déréglée mentalement, entre guillemets, comme ils les appellent, ou parce qu'ils sont sous l'emprise d'une personne toxique, plus généralement?
Oui, généralement, il y en a. Il y a beaucoup de patients qui viennent, surtout dans les couples. Et dans le milieu professionnel aussi, on rencontre beaucoup, ils viennent. Ils viennent vraiment dans un état, dans un état de la dépression, tout à fait. Oui.
Et quels sont les conseils que vous donnez à vos patients, ou quelle est la prise en charge que vous recommandez à ces patients qui sont prisonniers d'une relation toxique?
Bon, ceux qui sont prisonniers d'une relation toxique, nous sommes à deux catégories, hein, madame. Donc, ceux qui sont dans le milieu professionnel, nous préférons voir les comités d'hygiène au travail, hygiène mentale et sanitaire et autres. Mais ceux qui viennent dans les cadres des couples, souvent, nous conseillons qu'ils puissent, ou la femme ou l'homme, qu'ils puissent consulter l'entourage, parler, essayer un peu de convaincre l'autre de modifier ses attitudes. Mais cela ne nous éloigne pas, en tant que thérapeute, d'amorcer avec la thérapie systémique pour essayer d'aider la personne victime. Mais généralement, c'est en fonction aussi des tribus, hein, ici chez nous. Il y a des tribus qui se croient être plus supérieures que les autres, qui dramatisent un fait banal, qui mettent les gens dans de mauvaises postures pour qu'ils puissent continuer à vivre avec eux. Il y a des attitudes excessives, il y a une sorte de dévalorisation. Alors, nous tenons compte aussi, là, nous passons par l'ethnothérapie qui est tout à fait de mise ici chez nous, parce que vous comprenez, en Afrique, les traditions et mythes sont de mise dans les thérapies. Voilà. Voilà un peu ce que c'est passé ici. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Pierre Loubichy, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicien et thérapeute à Kinshasa. Bonne journée à vous. Docteur Loubichy parlait à l'instant de dévalorisation. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour la victime d'un pervers narcissique? La rupture avec un être nuisible, dont elle a été ou est toujours amoureuse, ou bien la honte d'avoir été manipulée?
Moi, je dirais que les deux, je ne sais pas comment on peut les comparer. Dans l'expérience que j'ai, les patientes qui viennent me voir, elles commencent toujours par dire, voilà mon histoire, je vais vous raconter mon histoire. Et lorsqu'elles me disent ce qu'elles attendent de moi, c'est, madame, il faut que vous m'expliquiez comment j'ai pu me laisser piéger. C'est-à-dire qu'à un certain moment, et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a à la fois le choc de ne pas s'être reconnu, enfin, de ce qui s'est passé. Il y a une forme de honte à cause de cette non-reconnaissance. Et parfois, elles me disent même, mais comment je peux savoir quelle est la bonne réponse? Donc, le doute perdure encore. La dévalorisation est encore, lorsque ces personnes consultent, pour moi, la dévalorisation est encore présente, induite ou réactivée. Et ça prend pas mal de temps pour qu'elles croient. Parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour les valoriser, leur prouver, etc. Mais il faut qu'elles se rendent, comment vous dire ça, qu'elles s'approprient, qu'elles sentent qu'elles sont à nouveau celles qu'elles se connaissaient. Donc c'est vraiment difficile.
Sabrina Philippe, pour sortir de ce genre de relation, il faut vraiment le vouloir? C'est une question de volonté?
Alors oui, c'est une question. Enfin, c'est pas une question de volonté en réalité.
Est-ce que c'est au moment où, par exemple, dans votre livre, la narratrice commence à éprouver plus de pitié que de haine pour l'homme avec lequel elle a cette relation toxique? Est-ce que ça, c'est un premier pas peut-être vers le sortir de cette relation qui l'étouffe, qui l'emprisonne?
Si j'ai intitulé ce roman Et que nos âmes reviennent, c'est parce que j'ai un travail et une vision psycho-spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai du mal à employer le terme, même si on est parfois obligé pour faire comprendre le terme de victime, bourreau, parce que, à mon sens, toutes nos rencontres ont un sens caché. Et l'idée, c'est d'arrêter aussi de se considérer en tant que victime d'une personne qui aurait mis une emprise sur vous. Nous sommes responsables, autonomes aussi, de nos vies. Et nous avons cette capacité de nous transformer. Et l'idée, c'est pas seulement d'éprouver vis-à-vis de l'autre ensuite de la pitié, c'est pas ça. C'est de se dire, voilà, nous sommes deux êtres, deux âmes, j'ai envie de dire, on s'est rencontrés pour grandir, pour apprendre des choses. Et le propos, c'est d'apprendre à grandir au travers de relations qui sont aussi difficiles. Parce que c'est bien la difficulté qui nous fait bouger, c'est la difficulté qui nous donne l'opportunité de nous transformer. Et c'est dans cette vision-là que je souhaite aussi communiquer, parce que on est responsable de ce que l'on vit. Voilà. Arrêtons de dire l'autre c'est le méchant, parce que cette façon de dire l'autre c'est le méchant, si on le met aussi sur un plan sociétal, ça donne des choses qui sont très excluantes.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été nos invités. Dana Castro, psychologue, psychothérapeute, vous avez publié Ces expériences de vie qui nous font grandir aux éditions Vigo. Et Sabrina Philippe, psychologue également, vous venez de sortir chez Flammarion Et que nos âmes reviennent. Il est l'heure de retrouver maintenant le docteur Catherine Solano. RFI. Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous êtes médecin sexologue et vous allez répondre à des questions de nos auditeurs. Nous avons en ligne Guy Aymar qui nous appelle du Congo-Brazzaville. Bonjour Guy.
Bonjour.
Alors quelle est votre question pour le docteur Solano?
Ma question est la suivante. J'éprouve d'énormes difficultés à me procurer du plaisir lorsque je fais des rapports avec le préservatif. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a-t-il un moyen de remédier à cela, afin de passer les rapports avec le préservatif sans problème?
Alors, quand vous dites « j'éprouve d'énormes problèmes », c'est quoi vos énormes problèmes? C'est que vous avez une panne quand vous mettez un préservatif?
Ouais, c'est là.
Voilà, d'accord. Alors, ça, alors il faut savoir que vous n'êtes pas un cas. J'ai fait une enquête une fois et il y a 80% des hommes qui disent « quand je mets un préservatif, j'ai une panne » ou « non, pas j'ai une panne forcément à chaque fois, mais j'ai déjà eu une panne en mettant un préservatif ou j'ai déjà eu une baisse d'érection importante ». Donc c'est quelque chose de très fréquent. Je le dis pour les hommes qui nous écoutent, qui se disent pas « je suis plus nulle que les autres » et pour les femmes qui se disent pas « mon partenaire est pas doué » parce que, croyez-moi mesdames, c'est pas évident. Donc c'est très fréquent. Donc il faut savoir que il y a plusieurs petites techniques pour aider. Donc, dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est de demander à votre partenaire, est-ce que toi, tu peux mettre en place le préservatif? Parce que au lieu de dire en pleine action, vous voyez, vous êtes en pleine action, vous vous dites, c'est bientôt la pénétration, je vais mettre mon préservatif, vous lui dites, chérie, attends un petit peu, je vais mettre mon préservatif, et bien là, ça fait, on dit que ça fait une interruption dans la trajectoire érotique. Ça fait un peu, c'est pas très poétique comme expression, c'est mais sûr. Ça veut dire on est obligé de s'arrêter, de faire une pause, quoi, pour mettre le préservatif. Du coup, on n'est plus très dans l'excitation et souvent l'érection diminue. Donc, si au lieu de dire ça, chérie, attends un peu, je vais mettre mon préservatif, vous lui dites, chérie, est-ce que tu peux me mettre le préservatif, s'il te plaît? Ça change tout parce qu'elle peut vous faire des caresses, le mettre tranquillement, tout en vous faisant des caresses, et du coup, vous allez garder votre érection. Bon, c'est pas si évident, c'est facile à dire, à la radio, comme ça, c'est pas si facile à faire parce que d'abord il vaut mieux que vous lui ayez dit avant, écoute, moi je préfère que tu mettes le préservatif. La première fois, si elle n'est pas habituée, elle ne sait pas plus s'en servir que n'importe qui, donc ça va cafouiller. Mais donc ça vaut le coup de lui dire entraîne-toi un petit peu ou de se dire si les trois premières fois c'est raté, on va bien finir par y arriver, vous voyez. Donc il y a un petit temps d'apprentissage.
Et si avec le préservatif, la panne d'érection survient après, c'est-à-dire pendant le rapport sexuel?
Oui, alors il y a aussi des hommes qui ont une panne qui survient pendant le rapport sexuel parce qu'ils disent, moi, j'ai moins de sensations. Et dans ces cas-là, est-ce que c'est votre cas, Guy? Non, c'est pas ça votre souci.
Non.
Je le dis quand même pour nos auditeurs, il y a des hommes, il faut essayer de choisir un préservatif assez fin pour avoir plus de sensations ou éventuellement mettre une petite goutte de lubrifiant dans le préservatif parce que ça le rend beaucoup plus confortable. Ou encore, et là, c'est valable pour vous, Guy aussi, on peut essayer le préservatif féminin. Parce que dans ces cas-là, la femme peut mettre le préservatif féminin dans son vagin avant de commencer le rapport sexuel, avant même que vous ayez une érection. Et du coup, il n'y a pas besoin de s'arrêter en plein milieu. Voilà. Faut s'entraîner un peu aussi, ceci dit, parce que c'est pas, ça fait pas partie de la nature. Hein, c'est quand même un artifice, mais ça peut être utile.
Voilà. Faut s'entraîner dans la décontraction, sans pression.
Voilà, et surtout pas se dire on n'est pas doué, on n'y arrive pas, parce que tout le monde, c'est pareil pour tout le monde au début.
Merci beaucoup Guy de nous avoir appelé. Bonne journée à Ouesso. Docteur Solano, une question de Gloria qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Gloria.
Bonjour docteur.
Donc le docteur Solano vous écoute.
Oui, ma question était que vraiment, combien de fois au moins un couple qui vit ensemble doit faire l'amour au moins dans un mois? Et puis il y a des conséquences pour ceux qui font l'amour souvent.
Alors, combien de fois peut-on faire l'amour dans la semaine ou dans le mois?
Eh bien, écoutez, quand on demande à des personnes c'est quoi pour vous la fréquence idéale des rapports sexuels, en général, les gens disent à peu près 2 ou 3 fois par semaine. Presque tout le monde dit ça. Alors, ça veut pas dire que tout le monde a 2 ou 3 rapports sexuels par semaine, tous les couples. Souvent, quand on est en couple au début, on en a plus souvent. Quand on est jeune et qu'on se connaît depuis pas longtemps. Quand on est beaucoup moins jeune, mais qu'on se connaît depuis pas longtemps, on en a beaucoup aussi. En général, ça peut être 4 ou 5, ça peut même être tous les jours. Et puis, quand le couple dure plus, il y a eu des études, effectivement, en moyenne, les gens ont à peu près 8 rapports sexuels par mois. C'est la moyenne générale. Alors, ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est une moyenne que c'est bien, ni que tout le monde le fait, parce qu'une moyenne, ça peut être, il y en a qui le font 16 fois et d'autres 4 fois. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre des rapports sexuels, par exemple, si on fait l'amour tous les jours, matin et soir, eh bien, ça n'a pas de conséquences néfastes sur la vie sexuelle. Et si on le fait une fois ou deux par mois seulement, mais qu'on est bien non plus, donc c'est à chacun de trouver un rythme qui lui convient dans son couple.
Merci Gloria, bonne journée à Brazzaville. Docteur Solano, on a une question posée par Lemomba sur Facebook. Quel conseil pouvez-vous me donner pour faire renaître une sexualité perdue en couple depuis des années?
Eh bien, d'abord, je pense qu'il faut se demander pourquoi cette sexualité de couple a disparu. Chercher à éliminer ses causes quand on les connaît. Ça peut être des tensions dans le couple, peut-être qu'on a besoin de réconciliation. Ça peut être des tensions dans la famille qui est trop présente ou trop loin, ou etc. Des difficultés au niveau du logement, comme du manque d'intimité. Ça peut être de l'éloignement physique ou psychologique, des problèmes de santé, des médicaments, etc. Et quand on sait d'où vient cette absence de sexualité, on peut diminuer les causes. Parce que sans ça, c'est difficile de reprendre une sexualité de couple si la cause du problème est toujours là.
Et ensuite, une fois que les Mumba a identifié les causes possibles, que peut-il faire?
Alors déjà, il faudra sans doute reconquérir sa femme, un peu comme si c'était une inconnue. La séduire, lui donner envie de se rapprocher. Ça peut se faire par des compliments, des attentions, des petits cadeaux, des activités à faire ensemble qu'il peut lui proposer, ne serait-ce que des petites promenades à deux en se tenant main dans la main, par exemple.
Mais tout ça n'entraîne pas forcément une sexualité de couple.
Non, ça suffit pas, mais c'est le début. Il faut déjà se rapprocher. Ensuite, il faut chercher, à mon sens, des activités qui vous rapproche physiquement. Par exemple, lui proposer d'aller danser ensemble, parce que la danse a un côté un peu érotique et qui rapproche physiquement, d'aller à la piscine ensemble, d'apprendre à se faire des massages. Et si vous sentez que votre partenaire est assez réticente, c'est bien de commencer par faire des massages des pieds, par exemple, tout simplement. C'est pas très sexuel, donc c'est pas très effrayant si on est déshabitué à la sexualité, mais ça reprend contact. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est ce qui compte, c'est que votre partenaire, que ça soit un homme ou une femme, quand la sexualité a disparu, il faut que il ou elle ait envie d'être plus proche de vous, pas seulement d'avoir un rapport sexuel. Parce qu'en fait, quand on n'a pas de rapport sexuel dans un couple, ce qui manque le plus, ce n'est pas du tout d'avoir des orgasmes. Parce que des orgasmes, on peut en avoir tout seul. Ça, c'est pas un problème. Ce qui manque, c'est de se sentir aimé. Donc, il faut bien faire comprendre à l'autre que ce que vous recherchez, c'est de l'amour. Et ce que vous avez envie de lui donner, c'est de l'amour. Et qu'effectivement, la sexualité, c'est une manière de l'exprimer. Mais c'est pas une gymnastique.
Docteur Catherine Solano, merci beaucoup pour ces conseils. À bientôt.
Au revoir Chantal, au revoir à tous nos auditeurs.
Priorité santé touche à sa fin. Merci à Setou Samake et Ophélie Lassen qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Nicolas Benita qui l'a réalisée avec Laurence Nau au standard pour les appels. Demain, nous parlerons de la pollution et de son impact sur la santé. Nous aurons le témoignage de notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi, qui nous racontera la situation extrêmement difficile pour les habitants de New Delhi et des villes périphériques en Inde. Si vous voulez témoigner ou poser des questions, appelez-nous. Vous connaissez notre numéro, le 33 1 84 22 75 75. Vous pouvez réécouter Priorité Santé en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émissions. À demain et portez-vous bien.